Bienvenue sur Galabert City, le son du collège. Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galabert.
Interviews, articles, chroniques et actualités, on y parle de tout et n'importe quoi.
Yeah!
Chers auditeurs, bonjour, je me présente Dorothée Larguier, je suis l'enseignante d'allemand de la Galabert. J'ai avec moi eu deux invités, à savoir Madame Arnaud et Madame Gonnet, que les six germanistes de 3e de la Galabert vont interviewer sur à la fois les Huguenots et les liens entre les Huguenots et la ville de Berlin et l'expérience de vie à Berlin de Madame Gonnet pendant 4 ans, entre 1974 et 1978. Chers germanistes, c'est à vous.
Première question, quels sont vos liens avec les Huguenots ?
Alors en fait, je n'ai aucun lien avec les Huguenots, une arrière-grand-mère protestante, mais on est dans une région où on parle beaucoup des Huguenots, où il y a eu pas mal de batailles, de peines, autant de morts du côté des Huguenots que des catholiques. On ne se mariait pas entre catholiques et protestants jusqu'en 1965. Il y avait des quartiers qui étaient plutôt catholiques et des quartiers qui étaient plutôt protestants. Voilà, ça a beaucoup changé depuis, évidemment. Et donc, moi, je m'intéresse à l'histoire. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont parlé de...
Pourquoi avez-vous été sensible à leurs empreintes à Berlin ?
Alors, parce que je suis curieuse et qu'avant d'arriver à Berlin, j'avais pris le guide Michelin, le Baedeker, et puis la gendarmerie nous avait donné toute une petite livrée en disant comment ça se passait, qui était là-bas, qu'est-ce qu'il fallait faire, où est-ce qu'on pouvait aller, enfin, comment se tenir, ne pas provoquer d'incident. Donc, dès que je suis arrivée à Berlin, évidemment, je suis partie en chasse pour tout regarder.
En étiez-vous informé avant de partir en Allemagne ? Si oui, pourquoi ?
pour les Huguenots ?
Oui.
Oui, alors parce que j'avais vu leur histoire et je savais que le roi de Prusse, qui occupait un pays plein de marécages, n'avait pas une population extraordinaire. La terre ne donnait pas de blé. C'était des terres pauvres. À la rigueur, on a eu après de la pomme de terre. Il avait besoin de migrants. Et quand il s'est rendu compte que les Huguenots étaient pourchassés en France et qu'ils partaient, il leur a dit « venez ». Et évidemment, ceux qui pouvaient arriver jusqu'à Berlin, en principe, c'était des gens décidés, des gens qui avaient déjà un métier, déjà qui avaient eu un véhicule pour se transporter ou pas. Mais enfin, ils avaient été un peu plus en sécurité que d'autres. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Et donc, ils ont tout de suite intégré des métiers avec ceux qu'ils savaient. C'était plutôt des bourgeois qui sont arrivés, des gens cultivés et qui ont laissé donc des noms de famille. En plus, il y en a qui se sont mariés très bien dans la haute société. Vous avez eu un président d'Allemagne de l'Est, qui portait un nom français, Mézières.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Berlin ?
Eh bien, justement, ils ont apporté un esprit d'entreprise, de commerce. Et c'était des gens travailleurs qui avaient souffert. Donc, ils connaissaient le prix de la sécurité, que le roi leur a donné des avantages. Ils étaient logés plus facilement, dans un meilleur quartier. Et puis, il y avait la gloire un peu de la culture française et de l'élégance française, tout ce qui nous auréole un peu à l'étranger. Donc, quand, je vais le dire maintenant, pour le fameux pont qui a été la cause de notre rencontre, c'est un pont qui est au bord de la Spree, un pont-levis, qui a été reconstruit pratiquement, et où, normalement, c'était un lieu de vente pour la soie que les Français, parce que les Français avaient apporté l'industrie de la soie. Ceux des Cévennes, ils n'avaient que la soie. Par contre, ils ont apporté de l'architecture avec toute une place qu'on appelle la place des Français, d'ailleurs, où vous avez une église, un temple, qui a été tout ça, ça a été reconstruit. Alors, par contre, je suis une abonnée au cimetière. Je vais quelque part, je vais au cimetière. pour voir si je ne rencontre pas quelqu'un que je connais. Enfin, je m'entends sur les tombes. Et je suis allée, il y a plusieurs cimetières protestants à Berlin. Il y en avait un du côté français. Donc, je suis allée voir et j'ai vu des noms français comme Reboul, Lange, Hauteville. C'est des noms tout à fait français, ça. Et puis après, du côté de Berlin-Est, il y avait aussi un cimetière protestant. Et je suis allée voir, mais c'était un problème parce que c'était contre le mur. Alors, le gendarme qui m'accompagnait, il devait rester au bout de la rue. Je partais à pied, moi. Et pareil, j'ai trouvé des noms d'ici.
Et il en reste des bâtiments, des usagers ou autres ?
Alors, s'il reste des bâtiments, il faut penser que Berlin a été complètement détruit à la fin de la guerre. Que faut dresser un hommage aux femmes. Les femmes de Berlin, elles ont, à la fin de la guerre, elles ont ramassé les cailloux des maisons, enfin les quairons, les briques, n'importe ce qui avait servi. Elles en ont fait un tas tellement énorme qu'on l'a appelé le Teufelsberg, la montagne du diable, hein, qui a été couvert un peu comme les terrils d'Alès, a été couvert de végétation. Ça a été utile, mais par contre, ce dont je parlais tout à l'heure, l'église de la place de ces gendarmes, tout ça, ça a été construit. Et comme c'était à Berlin-Ouest, ça c'était à Berlin-Ouest, donc ça a été reconstruit. Parce que quand je suis allée à Berlin-Est, il y avait encore les traces des mitraillettes ou autres sur les maisons. Qui avait été conservé. Alors, il y a le Collège français, mais pour moi, on l'a fait juste après 1945. Maintenant, il était peut-être sur les traces des collèges ou des écoles, parce qu'à Berlin, ils aiment beaucoup le béton, enfin, ils aimaient à cette époque-là. J'aime bien, finalement, il y a une poésie du béton. Et il y avait des quartiers, comme le Hansa Viertel, où les architectes avaient eu tout loisir de construire des HLM sympathiques. Là où j'habitais, c'était des maisons neuves. Elles avaient le style, disons, un peu germanique, un peu gris, un peu lourd, mais elles étaient récentes. Il y avait ce qu'on appelle l'église cassée. C'est l'église qui est en plein centre de Berlin, sur le coup d'âme, qui a été détruite. C'est une église qui datait du temps des rois de Prusse. Elle a été détruite, on l'a gardée comme ça. Et à côté, on a refait une église avec des tout petits carreaux bleus de Chartres, parce que on a donné le secret du bleu de Chartres, et le clocher était à côté. Et à Berlin, on donnait des noms bizarres. Donc, cette église, on l'a surnommée la boîte à poudre, et le clocher, on le surnommait le rouge à lèvres.
Du coup, quel est votre lien avec le musée de la soie de Saint-Hippolyte-du-Fort ?
Alors, tout simplement que j'aime bien les Cévennes, que j'aime bien la soie. Et il y a même une petite boîte où les sériciculteurs mettaient les œufs. Quand on met les œufs, que ça se transforme en verre. Le village d'où je viens, Villevieille, était un village de sériciculteurs. Donc, on avait tous ces petites boîtes à la maison. Et nous en avons porté deux ou trois au musée de la soie, parce qu'il y a le nom de mon arrière-grand-père, Antoine Liour, sériciculteur à Villevieille.
Ils sont sur un mur au musée.
Elles sont au musée, normalement sur une porte.
Êtes-vous déjà allé à Berlin-Est pendant votre...
Absolument, oui. C'est même ce qui était... Voilà, c'est ce que j'aimerais faire comprendre. Mais oui, je suis allé à Berlin-Est. Donc, j'ai habité Berlin-Ouest, dans le nord, parce que le secteur français était au nord, du côté de Tegel. Tegel, c'était l'aéroport à l'époque, qui avait pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Donc, pour aller à l'Est, le général français avait des exigences. On devait avoir une voiture noire. La voiture noire, c'était une voiture qui n'est pas militaire, du genre de... Je ne sais pas quelle marque, Renault peut-être. Automatiquement, il fallait que le chauffeur soit un sous-officier ou le chef de famille. Et puis, on avait le droit de passer à l'Est pendant 6 heures. Parce qu'au-delà de 6 heures, il y aurait peut-être eu un incident. On aurait pu rester tant qu'on voulait, parce que nous avions le droit officiellement d'y aller. Mais pour éviter les incidents, donc, on a mis cette loi. Donc, mon mari demandait la permission. Le colonel donner la permission ou pas. Nous avons eu un colonel qui ne les donnait pas du tout. Et puis, on prenait la voiture. Un gendarme m'accompagnait et nous passions à l'Est. Alors, pour passer à l'Est, on passait au Checkpoint Charlie, qui est le très, très, très connu, où vous avez une case français, anglais et américain. Les Américains étaient les plus près de Berlin-Est. Donc, en passant, on mettait notre carte d'identité contre la vitre. Le Grenzo nous faisait passer. Et justement, je suis tellement passée souvent. À l'époque, je m'appelais Noël. Donc, il me disait « Bonjour, Madame Weihnachten !» Et là, c'était le Checkpoint Charlie, c'est l'endroit où passaient les étrangers, les militaires. Pas les Allemands de l'Est ou de l'Ouest. Ils avaient mis pour protéger à cet endroit-là, vous avez, donc on nous surveille, on passe une glace sous la voiture au cas où quelqu'un se serait caché là. On passe en chicane au cas où, en venant de Berlin-Est, une voiture serait passée à fond, ce qui avait été fait au début. On a un truc en béton, on coupe le fil et ce truc en béton descend à toute allure et bousille la voiture. On ne pourra pas se passer. Puis il y a des soldats partout, à droite, à gauche. Et la traversée du mur, c'est à peu près à ce moment-là, de là au bout de la salle.
Était-ce avec votre mari ou seul que vous êtes allé à l'Est?
Alors, c'est le colonel qui donnait la permission. Mon mari venait quand nous allions voir des spectacles. Parce qu'à l'Est, ils avaient le goût de la culture plus forte qu'à l'Ouest. Donc, les programmes de théâtre et d'opéra changeaient beaucoup. Par ailleurs, le théâtre à l'Ouest était beaucoup plus cher qu'à l'Est. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de visiteurs et je les amenais voir parce que c'était des théâtres, des opéras de qualité. On y a vu, par exemple, le Bolchoï qui était venu de Russie. Donc, on y allait. Puis 6 heures, ça donnait le temps d'y aller, d'assister au spectacle, même de boire un café quelque part et de rentrer. Et pas causé d'incident. Alors, j'y suis allée avec mon mari ou simplement un gendarme, parce que nous, en gendarmerie, nous avions la chance que n'importe quel gendarme pouvait nous accompagner. Que dans les autres armées, il fallait un sous-officier. Tout gendarme était sous-officier, donc n'importe quel gendarme nous accompagnait. Mais on aurait pu y aller avec notre propre voiture. C'est le général français qui, pendant longtemps, après moi, c'est devenu plus souple, a voulu qu'on y aille avec une voiture officielle parce que les Anglais et les Américains partaient avec leur voiture. Ils passaient avec leur voiture.
Et donc, avez-vous eu peur de ne pas pouvoir en ressortir de Berlin-Est?
Eh bien, pas tellement, parce que je suis arrivée à une période où c'était plus souple. Par exemple, quand on a pris pour aller à Berlin, on a besoin de... Il y avait 3 voies par route. Alors, on pouvait venir par Hambourg, par Strasbourg, Kassel ou par Munich. Pour arriver tous à Potsdam. Ça, c'était voiture, mais il y avait aussi par avion, même la même direction, et par train. Bon, donc, je suis arrivée, c'était beaucoup plus simple, parce qu'avant, il y avait sur tous les ponts, il y avait des soldats en armes qui surveillaient partout. Moi, c'était plus décontracté. Il se trouve que l'Allemagne de l'Est, par exemple, a acheté le fil de fer barbelé pour le mur, à l'ouest.
Et quelles étaient les instructions de la France par rapport à ces déplacements?
Ne pas créer d'incident, ne pas aller trop vers le mur. Donc, quand j'allais au cimetière protestant de l'autre côté, où je suis allée jusqu'à Köpenick, où il y a l'histoire d'un chevalier de Köpenick, et moi, je voulais voir Köpenick, qui était vraiment, vraiment à la limite de Berlin. Et donc, pareil, le gendarme m'a dit, je ne vais pas plus loin. Je suis partie à pied, on a visité le château. Et le gendarme, il était visiblement français, il ne fallait pas qu'il aille trop près de la frontière, pas créer d'incident.
D'accord. Et étiez-vous libre d'y aller autant à chaque fois que vous le vouliez? Il n'y avait pas de restriction?
Alors, côté international, j'aurais eu le droit. C'est notre général pour éviter que nous fassions des excès, parce que quelquefois, pour entretenir le mur, les Allemands de l'Est avaient laissé des portes. Et quelquefois, ils entretenaient le mur côté international, puisque Ils ont mis le mur en retrait de 1 ou 2 mètres par rapport à la limite officielle. Donc, pour pouvoir venir nettoyer le mur, par exemple, de notre côté.
Pouvez-vous parler avec les habitants de la RDA?
Oui. Alors, j'ai parlé aux habitants de la RDA qui étaient extrêmement disciplinés. On passait au feu rouge, il y a que les au feu vert. Les Français, toujours indisciplinés. Mais moi, j'ai parlé quand on a fait la queue pour manger des wursts. À l'est comme à l'ouest, il y avait des cabanes et on pouvait manger des saucisses avec de la moutarde. Et alors, oui, je leur ai parlé, mais on ne pouvait pas parler politique. Et ils adoraient parler parce que beaucoup parlaient français. Donc, ils aimaient bien parler français. Ils aimaient bien parler de livres. Il y avait quelques magasins où les Français, Anglais, Américains, achetaient des tableaux ou des fleurs en soie. Et ils étaient contents à ce moment-là si on leur offrait un foulard de Paris ou un parfum de chez Yves Saint-Laurent. Donc j'ai parlé. Et j'ai parlé aussi parce que un cousin de mon mari avait une cousine qui avait épousé un Allemand de l'Est. Et elle n'avait pas, quand on est allé la voir, elle voulait aller voir sa mère en France. Elle avait demandé un laissez-passer. Elle avait le droit de venir en France sans son mari et ses enfants. Mais elle partait le lendemain. Elle n'avait toujours pas son laissez-passer. C'est toujours... Et par contre, j'avais une collègue au gymnasium qui était mariée avec un Allemand habitant, quand il est né, l'Est, qui avait pu s'enfuir à temps avec sa maman. Mais son frère était resté à l'Est. Donc le frère n'avait pas pu faire d'études parce qu'il était fils de militaire. Et quand ils allaient voir leur frère, c'était très compliqué. Elle, française, passait par le checkpoint Charlie, son mari passait par un autre checkpoint, et lui était souvent embêté, elle aussi. À partir de Noël 13 ou 14, ils ont eu la permission d'aller voir leur famille à l'Est.
Pouvaient-ils communiquer librement avec vous?
J'ai jamais eu... ils n'ont pas parlé longtemps. Et puis, il y en a qui parlaient français, mais pas tout le monde. Donc, je n'ai pas eu l'impression à ce moment-là qu'ils étaient surveillés. La seule chose, c'est que, toujours pareil, moi, je faisais exprès pour voir comment c'était, quand j'étais à l'Est, d'aller vers le mur. Mais les Berlinois de l'Est, si le mur était là, ils n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir. C'était interdit. Moi non plus, je ne devais pas y aller. Mais enfin, moi, on n'allait pas me tirer dessus. Donc, eux, on sentait qu'il y avait un peu de tension. Puis, il faut dire aussi que les murs n'étaient pas toujours arrangés, des maisons, que les produits étaient avant 40 dans les magasins, qu'ils se chauffaient avec le lignite. Donc, il y avait une odeur qui n'était pas l'odeur du charbon, qui est moins bien. Moi, je trouvais que Berlin sentait les vieux papiers et charbon de mauvaise qualité.
Comment décririez-vous l'atmosphère à Berlin-Ouest et Est? Y avait-il des différences selon vous? Et si oui, lesquelles étaient les plus importantes?
Berlin-Ouest était la vitrine pour toute l'Allemagne de l'Est. Quand vous arriviez à Berlin, moi, j'y suis arrivée un soir. Partout, des vitrines illuminées. C'est là que j'ai vu les premières fois avec la lumière qui passait à travers. On avait beaucoup de grosses lampes dans les vitrines avec plein de tubes et la lumière qui passait à travers. C'est connu, ça. Je ne retrouve plus le nom.
Bon, dans les années 70.
Oui. Mais 20 ans après, ça y était toujours. Donc, il y avait de la lumière partout, des jets d'eau la nuit, des jets d'eau partout. Il y avait beaucoup de place avec de l'eau. Et à ce moment-là, les fontaines étaient toutes lumineuses. Il y avait un magasin qui s'appelait le KDV, avec 5 étages. On y achetait tout, sauf un éléphant peut-être. Mais on pouvait y acheter tout. Et vous aviez l'avenue de Berlin-Ouest, qui s'appelait le Kurfürstendamm, l'avenue du prince, et qu'on appelait le Kuhdamm. Alors là, c'était une débauche de grands magasins partout. Et au bout, donc, il y avait la fameuse église cassée dont je vous ai dit un mot. Et vous aviez aussi l'immeuble Mercedes. C'était un énorme immeuble avec tout à fait en haut une piscine avec on pouvait s'y baigner. Il y avait un sauna. Donc, on allait au sauna et à un moment, on nageait en haut. Et vous aviez le cible de Mercedes, qui devait faire 5 mètres de haut, tout illuminé, qui tournait. Et on le voyait de Berlin-Est. Donc, et la nuit, si vous regardiez du côté de Berlin-Est, c'était noir. Ils avaient, comme nous maintenant, des petits quinquets la nuit, et puis pas de vitrine avec des boches, et pas de vitrine avec des boches d'ail, des saucisses, enfin, toute la charcuterie, c'était énorme. Berlin-Est, pas du tout de la même façon. Et alors, quand nous allions à Berlin-Est, j'achetais pas forcément parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas eux-mêmes assez de choses, mais quand il y avait une queue, on se mettait dans la queue pour voir ce qu'on achetait. Alors, par exemple, en plein été, c'était des gants d'hiver. Les cousins chez qui nous sommes allés, ils étaient trois familles dans l'appartement, ils partageaient la cuisine, la salle de bain, chacun avait sa chambre. C'était exactement comme la maison de mon grand-père avant 40, juste l'immeuble parisien. Et il avait des murs de couleurs différentes. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu de la peinture bleue pour faire trois murs, et après, il n'avait eu que de la jaune. Pour les tapisseries, c'était pareil. Alors, il y en avait des chanceux qui avaient réussi à avoir quatre murs identiques, mais ce n'était pas rare d'avoir... On prenait ce qu'il y avait. Des cartables, par exemple. Et le cartable, on ne vous le vendait pas en septembre, il y a Pâques. C'était tout décalé, parce que c'était du rationnement. Vous voyez, c'était... Mais tout le monde était pareil, même. Sauf ceux de l'opéra, les danseurs. Alors, quand on les voyait à côté des autres, parce que je les ai rencontrés en civil dans la rue, c'était chic. C'était pas tout à fait comme en France, mais quand même, mieux. On voyait qu'ils étaient mieux.
Où j'écoute la pluie en vacances, d'Allemagne, où j'entends le rock en silence, d'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France, d'Allemagne, l'histoire passée est une injure, d'Allemagne. L'avenir est une aventure. L'Allemagne, je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, Wiedersehen, Lili Marlène. Reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'a vous rassure. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincères. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Oh, Wiedersehen, Lili Marlène, reparlez-moi des roses Göttingen qui m'accompagnent dans notre Allemagne, à l'heure où Colombée vautour s'éloigne, de quel côté du mur la frontière vous rassure. Thank you.
habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dein Mann, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre.
Quels étaient les dispositifs pour que les habitants de la RDA n'essaient pas de s'échapper ?
Alors, bon, vous savez qu'on a fait le mur, en fait. La population jeune d'Allemagne de l'Est avait la possibilité de continuer son travail dans une ville de l'Ouest. Et à Berlin en particulier, on pouvait habiter à l'Est et aller travailler à l'Ouest. Et ils ont senti que c'était mieux à l'Ouest. Ils ont commencé, surtout les jeunes, à partir, ceux qui gouvernaient l'Allemagne de l'Est, avec raison, de dire, ils ont exigé qu'on ne passe plus à l'Est. Comme les Allemands s'entêtaient à passer à l'Est, ben ils ont dit, on va fermer. Bien sûr, ils ont commencé par Berlin, parce que c'était plus facile, parce que la frontière... En fait, le mur, vous l'aviez depuis là-haut, le nord, hein, depuis l'Elbe, jusqu'au sud. Le mur, il y était aussi, mais peut-être moins épais, mais il y était quand on a fait le mur. Mais on a commencé par Berlin. Voilà. Donc, la limite entre les deux Berlin, c'est donc au milieu, en suivant les rues, souvent. Donc, un bon matin, ils se sont mis à mettre des contrôleurs dans chaque rue. On a continué à passer. Quand on a su qu'on allait fermer, les gens qui ont une fenêtre qui donne côté de l'ouest, ils ont sauté par la fenêtre, petit à petit, mais au début, tous les gens sont passés. Donc, on a mis des fils de fer barbelés. Puis après, on a monté le mur avec des querrons. Et puis après, on a, suivant la rue, il y a un immeuble au bord de la rue. On a tombé, on a laissé que la façade de l'immeuble et on a tout bouché. Donc, ces immeubles servent de mur par eux-mêmes. Bon, alors si la rue est étroite, vous n'avez pas forcément toute place pour y mettre. Après, on a mis des fossés. Puis, on a mis des barrières anti-chars. Vous savez, avec des gros X très lourds. Mais on a aussi ménagé une route à ce mur ici et à ce mur-là, parce que le mur, il faisait ça, il s'élargissait. On a mis une petite route pour que les petites jeeps allemandes passent en voiture. Mais il y avait sans arrêt des motards aussi, deux motards qui passaient, ou des soldats à pied. Plus tard, on a mis des chiens, par exemple. Alors, les chiens, c'est très simple. Il y a un piquet à 20 mètres, avec un chien au bout qui peut faire 20 mètres, et 20 mètres plus loin, un chien. Donc le chien, il peut aller jusqu'à 20 mètres. Et si vous voulez passer, vous ne pouvez pas. De l'autre côté, il y a aussi un chien. Alors, il y avait des chiens. Il y avait des nids à mitraillettes, c'est-à-dire qu'il y avait des petites casemates. Et si vous vouliez passer, peut-être il y avait un soldat avec une mitraillette dedans, ou peut-être pas, quand on tentait le coup pour passer. Et il y avait aussi des tirs automatiques, comme on fait pour les oiseaux, pour les faire partir sur les aéroports, hein, ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait des mines, beaucoup de mines. Donc, il y avait un chemin reconnu, et sur les autres, on pouvait sauter. Ils ont laissé d'ailleurs agoniser quelques-uns, une fois qu'ils avaient sauté. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y avait un mirador, alors des miradors. Moi, je dis mirador chaque fois qu'on peut grimper. Là, vous avez peut-être vu le mirador, une photo prise du mirador de la rue qui appartenait au secteur français, qui était très, très, très haut et qui nous permettait de voir de l'autre côté que les gens ne passaient pas contre le mur. Il y avait un grand stade qui était souvent illuminé et puis des voitures qui passaient. Comme ça, on voyait les Trabantes. On voyait les Trabantes qui étaient les voitures de l'Allemagne de l'Est et qui étaient des moteurs à deux temps. Ils sentaient très mauvais. Là aussi, ça sentait mauvais. Vous ne l'aviez que quand vous l'aviez payé. Et la première fois, il y avait même une étape où il fallait être admis à la commander.
On l'a acheté d'ailleurs. J'ai un ami qui en avait une. Et quand il l'a acheté, après avoir que le mur soit tombé, le monsieur de l'Allemagne de l'Est lui a proposé et lui a donné tous les papiers pour justifier en fait de l'importation en France. Donc il fallait en fait tout le dossier. Et là-dessus, c'est marqué en fait une telle année, il avait acheté toutes les portières. Telle année, il avait acheté le châssis. Telle année, le moteur. Et c'était très marrant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pour nous inconcevable aujourd'hui. Mais en fait, pour avoir une trabi, comme ils disent les Allemands. En fait, il fallait entre 8 et 10 ans pour avoir la voiture entièrement et on vous la livrait. C'était vraiment un très, très gros effort financier.
Je reviens sur le mur. J'ai oublié de dire les miradors. Et en gros, il faut compter 20 trucs pour le fait de faire barbeler ceci, cela, tout ce que je vous ai dit. En gros, il y a 20 systèmes différents. Il fallait de pire en pire. Donc, on a pu passer de moins en moins.
Travailliez-vous pendant votre expatriation? Comment s'est-elle organisée et votre déménagement?
Alors, travailler, oui, mais ce n'était pas prévu forcément parce que j'ai suivi mon mari, donc, qui était dans la gendarmerie. Je ne savais jamais où on allait atterrir. J'étais enseignante, mais j'étais pas nommée pendant longtemps. Si on n'avait pas de poste, tant pis. On n'était pas forcément renommée. Donc, je l'ai suivi et tout de suite, j'ai dit au lycée français, je suis prof, vous avez besoin de quelqu'un, je suis là. Et donc, j'ai fait des remplacements. J'ai dû faire 3 à 4 mois chaque année. Un remplacement. Les élèves étaient, c'est-à-dire très bien élevés, mais en classe, ils buvaient, ils mangeaient. Moi, ça m'a surpris. En 1974, on ne le faisait pas. Donc, j'ai été très, très étonnée. La plupart parlaient français couramment à partir de la seconde, pas de problème. Les filles faisaient la révérence quand elles nous croisaient. Et puis, en général, un bon niveau scolaire.
Comment s'est organisée votre expatriation?
Oui, alors donc, quand mon mari apprend au mois de mars à peu près, il va être muté à Berlin. Nous ne savions pas qu'il y avait une gendarmerie à Berlin, des gendarmes français à Berlin. Moi, je n'ai jamais pensé. Et ils font une espèce de prévôté. C'est comme les MP américains. Donc, les gendarmes étaient dans le quartier français. Et on nous a donné, donc, je vous ai dit, un petit livret en nous disant ce qu'il fallait faire. Par contre, étant donné que c'était spécial, je n'ai pas employé le mot, mais pour nous autres, Berlin, on dit c'est spécial. Les chauffeurs, c'est spécial. Le passé à l'Est, c'est spécial. Dans les appartements, attention, un lieutenant, il n'a que 2 ampoules à son lustre. En général, il en a 12. Alors, on était meublés, logés, on avait tout ce qu'il fallait. Au début, paraît-il, nous avions même de l'argenterie, mais les Français, comme d'autres, ont oublié que ce n'était pas eux, franchement. Donc, certains sont repartis avec l'argenterie, avec des tapis, parce qu'il y avait de très beaux tapis. Mais justement, quand je suis arrivée, moi, tout était très ordinaire. Donc, j'étais logée. J'avais besoin d'emporter du meublant, ce qu'ils appelaient du meublant, c'est-à-dire si j'avais des tableaux, si j'avais des lampadaires. Et en fait, j'avais tort parce qu'il y avait ce qu'on appelait les économas français, comme les économas anglais, comme les économas américains. Et les économas français regorgeaient de merveilles. Des lampadaires sublimes. Des bijoux, si vous voulez, et tout ça 40% moins cher qu'en France. Donc, j'aurais pas dû apporter, parce que j'ai apporté mon argenterie d'ailleurs, j'ai apporté un grand tableau que j'avais du sacre de Charles VII avec Jeanne d'Arc, français ça. Et puis les vêtements, de quoi bricoler. Donc c'est tout, ce qui fait que quand on a tout mis dans la voiture en fait pour revenir de Villevieille à Berlin. Au retour, on a dû faire un petit déménagement.
Pouviez-vous traverser le Länder de la RDA pour attendre Berlin-Ouest?
Alors, oui. C'est quand on est parti, on a dû faire la première fois Villevieille-Strasbourg. Strasbourg, et on a été après dans l'Allemagne de l'Ouest. Et on est allé à près de, donc j'ai dit Wolfenbüttel, le checkpoint Alpha s'appelait... C'est Wolfsburg, c'est là où vous avez les Volkswagen. Et le checkpoint Alpha s'appelait Helmstedt, ville du Homme, Helmstedt. Alors là, c'est pareil, c'était nous autres qui y passions, ceux qui étaient propos de sécurité à ce moment-là. Là, mon mari est allé porter tout, nous laisser passer. Il restait un moment, ça dépendait de l'humeur. Quelquefois, on laissait des... Paris Match ou n'importe, pour leur donner, parce qu'ils étaient en peine d'avoir des nouvelles de l'étranger. Et puis, mon mari revenait et on prenait l'autoroute en ciment. Les autoroutes étaient en ciment, c'était des routes du temps d'Hitler. Et là, on allait vers Berlin, mais on avait trois directions. On allait plutôt vers direction Munich, on va dire, puis après, on n'y arrivait jamais. Et puis, on remontait dans ce sens et puis... Dernier, on devait changer deux fois. Là, il y avait deux fois un changement. Il ne fallait surtout pas rater l'intersection. Sinon, on aurait causé un problème. Il ne fallait pas se perdre. Et on arrivait tous à Potsdam, qui est au sud. Et à Potsdam, on avait le checkpoint. Bravo. Ça, vous ne le savez pas. C'est le langage militaire. On a Alpha, Bravo, Charlie. Donc, on arrivait là. Et là, il y avait une grosse avenue qui était dans le secteur américain. Mais il y avait des lacs, des bois à côté. Et nous, on est allés. C'est là que mon mari, au lieu d'aller direct au casernement, il m'a fait voir de nuit tout Berlin illuminé. Donc, on traversait, mais on ne devait pas s'arrêter. On n'avait pas le droit. Je pensais à la mission militaire française. C'était des soldats, de l'armée de l'air en général. Cette mission militaire française était l'équivalent des missions militaires américaines. Anglaise et russe. Et alors, ils avaient des voitures, qui ne pouvaient pas blinder. Ils avaient des toilettes dedans, des provisions pour 8 jours. Et de temps en temps, ils partaient par le pont de Glenick, qui est près de Potsdam. Et ils partaient voir en Allemagne de l'Est, ils avaient le droit. Ils partaient voir s'il y avait un régiment qui avait l'air de s'agiter, si sur les routes, il y avait beaucoup de soldats. Etc. Ils espionnaient. Mais évidemment, ils étaient repérés par les Allemands de l'Est. Ils les surveillaient. Ils avaient les toilettes à l'intérieur parce qu'une fois, les soldats sont restés 8 jours. Ils ne pouvaient pas sortir, sinon ils auraient été prisonniers. Alors, il faut dire que les Russes faisaient la même chose en Allemagne de l'Ouest. Mais en Allemagne de l'Ouest, on les voyait passer, on disait, tiens, tu as vu, il y a les Russes qui sont là. C'est tout, on ne les arrêtait pas.
Quelles étaient les relations entre ressortissants français, britanniques et US? Comment étiez-vous perçu par les Allemands?
Alors, la première chose, c'est que avec les Anglais, Américains, il y avait aussi quelques Belges ou il y avait d'autres, on s'entendait officiellement très bien. On participait aux fêtes nationales les uns des autres. On allait voir les défilés. Par contre, nous, notre colonel, par exemple, de temps en temps, il recevait un officier ou un officier américain. Et il nous disait de venir. On a eu un colonel pendant un moment qui trouvait bien parce qu'il nous disait que nous représentions la France et c'est lui qui nous avait dit d'aller à l'opéra à Berlin-Est. Pour représenter la France, soyez brillants qu'on vous voit. Alors, on se parlait beaucoup, les hommes entre eux, il n'y avait pas forcément des frictions. Une année, c'était le général français qui commandait tout le monde. Je ne sais plus combien de temps maintenant. Oui, ça devait être tournant. L'année d'après, c'était l'anglais. Et avant le mur, avant le blocus de Berlin, il y avait aussi une année où c'était le russe. Mais comme on était fâchés depuis le blocus, le russe ne commandait plus.
Avez-vous visité d'autres villes en Allemagne de l'Ouest?
Alors, en Allemagne de l'Ouest, oui. un jour de Berlin, nous sommes partis par une autre route qui était ouverte plus souvent pour les Anglais. Et nous sommes allés faire Hambourg, Brême et Lübeck. Parce que comme je suis historienne, géographe surtout, ce sont les villes de la Hanse, les grandes villes du commerce du temps de l'Allemagne. Pour moi, je voulais voir ça. Alors, Hambourg, j'ai retenu les docks qui sentaient les épices. Et à Hambourg, il y avait un pont extraordinaire, un pont suspendu, un pont au-dessus de la mer. Et mon mari a renté l'embranchement. Mais il se trouve que quelques temps après, on l'a fermé comme trop fragile. C'était un chef-d'œuvre d'architecture, comme chez nous, le viaduc de Millau.
Berlin était-elle représentative ou différente du reste de l'Allemagne, selon vous ?
Je pense que c'était une vitrine, Berlin-Ouest. C'était une vitrine, donc elle était plus compliquée, plus riche. Il y avait des jeunes et des vieux, Berlin-Ouest. Parce que là aussi, pour que la population reste à Berlin, le gouvernement, qui était à Bonn à l'époque, donnait des bourses aux étudiants. D'ailleurs, l'université de Berlin-Ouest est devenue aussi brillante, même plus que l'université de Berlin-Est. Avant, une bonne université, vraiment, c'était Berlin-Est. Donc, on donnait des bourses, on attirait les jeunes, on donnait des loyers, des aides pour les loyers, et on construisait beaucoup. Donc, on avait besoin de maçons et de tout ce qui est nécessaire au commerce.
Berlin portait-elle les traces de la Seconde Guerre mondiale entre 1974 et 1978 ?
Du côté de l'Ouest, on avait pas mal reconstruit, puisque moi j'ai connu la Philharmonie, qui est une architecture extraordinaire. Et puis j'ai vu, comme je vous ai dit, la maison de Le Corbusier. J'ai vu le quartier spécial. Mais c'était toujours en construction, toujours. Du côté de l'Est, il restait beaucoup de choses abîmées, entre autres l'île au musée, où il y avait les anciens musées, le Pergame. Alors quand je disais le Pergame, les gens ne comprenaient pas, c'est Pergamon. C'est un musée parce que les Allemands ont fait beaucoup d'archéologie avec les villes de Turquie ou autres. Et donc, au musée de Pergame, qu'on pouvait voir des choses anciennes. Mais les murs étaient complètement abîmés et l'intérieur, là aussi, c'était gris. À l'Est, c'était vraiment pas reconstruit. Et quand ils reconstruisaient, souvent, c'est parce qu'ils avaient reçu de l'argent de mécènes de l'Ouest.
Avez-vous ressenti une différence marquante entre Berlin-Ouest et les autres régions d'Allemagne de l'Ouest en raison de sa localisation particulière ?
C'était spécial. Je ne peux pas dire mieux. C'est spécial. C'est inexprimable. Les autres régions d'Allemagne à l'Ouest, ils vivaient normalement. Enfin, normalement, oui. Comme nous en France. Tandis qu'à Berlin-Ouest comme à Berlin-Est, il y avait un esprit un peu particulier. Par contre, Berlin-Est était libre. Les gens de Berlin-Est, ils pouvaient naviguer un peu quand même dans l'Allemagne de l'Est. Pas trop près des frontières. C'est tout.
Quel était l'impact du mur sur les habitants ? Est-ce qu'il était perçu différemment par les Berlinois de l'Est ou de l'Ouest ?
Alors, pour les Allemands de l'Est, c'est vraiment, ils sont en prison. Par contre, pour les Allemands de Berlin-Ouest, ce n'est pas pareil. Ils savent qu'ils sont venus dans un truc parce que le mur, il est là. Hein. C'est la moitié carrément du cercle de Berlin qui est encerclé. Alors, c'était plutôt nous qui étions prisonniers parce que quand j'ai eu mes invités, j'ai eu 33 fournées de visiteurs. Je disais, venez voir. Et je faisais exprès le premier jour avec la voiture. Je tombais au checkpoint Charlie. J'allais vers Potsdam. Chaque fois, je les amenais au mur, qui voit les miradors, qui voit les antichars, qui voit les fossés. Moi, c'était historique, ça. Donc, alors, ceux de l'Est, c'est différent, mais ils disaient qu'il fallait vivre avec.
Comment le rideau de fer impactait-il les échanges et les voyages entre l'Est et l'Ouest ? Avait-il une crainte d'un conflit direct entre l'Est et l'Ouest ?
Alors, c'était une gêne pour tout, parce qu'il y avait des contrôles. Quand on a des besoins, comme j'ai raconté tout à l'heure pour les fils de fer barbelés, et il y a des produits dont on avait envie à l'Est, qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'ils étaient à l'Ouest, et puis qui revenaient cher. Quand on parlait de la Trabant, on ne pouvait pas s'acheter celui de l'Est, une Mercedes. le dauphin de Hitler, il était prisonnier à Spandau, ouais, chez les Anglais. Mais pendant un mois, c'était les Français qui le gardaient. Je ne me rappelle plus l'ordre. Hein. Un mois, c'était les Français. Un mois, c'était les Anglais. Un mois, c'était les Américains. Un mois, c'était les Russes. Je crois que j'ai donné dans l'ordre. Et alors, il y avait 5 directeurs français, anglais, américains. Il y avait 4 médecins, 4 directeurs, 4 tout en quadruple. Et les Russes, donc, quand c'était leur tour, venaient relever les Américains. Et puis, c'était les Français qui relevaient les Russes. Et alors, ils avaient un trajet obligatoire, entre guillemets, à travers Berlin-Ouest. Et on les perdait régulièrement. Parce qu'ils en profitaient, un, pour espionner. Deux, c'était assez amusant. Et alors, j'y suis retournée à Berlin. Et d'abord, moi, j'ai trouvé que des trous. J'ai pu trouver le mur, donc je ne savais plus rouler dans Berlin, puisque je n'arrivais pas au mur. Et je suis allée voir Spandau, où je n'avais pas pu rentrer. J'ai pu rentrer, j'ai vu la relève de la garde, mais de loin.
Comment les médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux décrivaient-ils la situation à Berlin pendant les années où vous y habitiez ?
Je peux t'en parler un petit peu, puisque mon père était journaliste. Et donc, en fait, dans les années 60, début des années 70, il était régulièrement à Berlin, chaque fois qu'en fait, il y avait des échanges de prisonniers, des choses. Voilà, donc ça se passait à des endroits bien précis, notamment avec le Checkpoint Charlie et puis avec certains ponts, tout ça.
Oui, le pont. C'était tout à fait. Le pont, la Born-Holmer-Brücke. Et en bas, le Glinic, oui, le pont de Glinic, qu'on appelait le pont où l'on échange les prisonniers.
Et donc, en fait, Berlin était plus ou moins, c'était vraiment une espèce d'enclave à part. Pour que tu te rendes compte, c'est comme si tu vivais dans une espèce de tour avec un petit peu du monde autour. Et en fait, les infos passaient un petit peu au compte-gouttes. À l'époque, il y avait la radio, oui, un petit peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se mettait à écouter Radio France, hein, Radio Internationale. Mais en fait, directement, c'était très difficile d'avoir des journaux au niveau de l'Ouest, exactement la presse comme on a l'habitude d'aller chez le marchand de presse. Tout oui, ça, oui. Tu n'avais pas toutes les...
À l'Est, il y avait la censure aussi.
Voilà, sûr. Mais à l'Est, de toute façon, il n'y avait rien. Mais même à l'Ouest, il y avait quand même une certaine rétention de ne pas créer d'incident.
Voilà.
Il ne fallait surtout pas créer d'incidents parce qu'on savait qu'en fait, on était quand même plus ou moins assis sur une espèce de poudrière. Tout le monde était un petit peu sur son camp à soi, on faisait attention. En fait, il faisait très attention à la façon dont on présentait le moindre truc qui se passait à Berlin. Le langage était plus que choisi.
Oui, nous avions, nous, la télévision à Berlin-Ouest, mais pas autant qu'aujourd'hui, forcément. Il n'y a pas les mêmes systèmes.
Mais le berlinois ordinaire n'était pas aussi ouvert que. Elle faisait partie, en fait, d'une élite. C'était à part. Les gendarmes, c'était quelque chose de spécial. C'était à part. Oui. Et en fait, du coup, ils avaient accès à des choses que le berlinois ordinaire n'y avait pas.
Alors, c'est pour ça que, quelquefois, à l'Ouest, à Berlin-Ouest, nous avions des Allemands qui nous rencontraient avec plaisir. Parce que s'ils aimaient le camembert, aux économats français, il y avait du camembert.
Est-ce que cette expérience a influencé votre vision du monde ou votre appréhension de la situation géopolitique européenne ? Et si oui, de quelle façon ?
Alors, moi, à Berlin, en fait, je me suis revue étudiante, donc j'ai étudié la situation. J'étais pas tellement concernée mondialement, quoi. J'ai dit, chic, tu es à Berlin, tu vas connaître l'histoire, les lieux où ça s'est passé. Je ne connaissais pas du tout l'Allemagne, donc je ne connaissais pas les Allemands, que j'ai apprécié, donc j'ai appris. Et en plus, c'était une ville cosmopolite. Donc moi, je suis là, je suis curieuse de tout, donc il faut que je sache, j'étais contente.
Donc pour finir, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui étudient cette partie de l'histoire ?
C'est que, essayer de faire la paix, moi je dis, parce que moi j'ai pas souffert, c'était tout à fait dans des conditions de luxe, et sans risque, je risquais rien. Donc, enfin, a priori, à l'Est, ils avaient plus faim que nous, ils n'étaient pas maigres, mais enfin... Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'être plutôt, d'être pacifique. De quelle région qu'on soit, on est pareil.
Bien, nous arrivons au terme de cette interview. J'aurais dû peut-être un peu replacer nos différentes intervenantes, que je profite maintenant de faire, parce qu'on a les informations. Donc, vous l'avez tous compris, Madame Gonnet... Je l'ai présenté plus en détail que Madame Arnaud, donc nous a rapporté son témoignage de ces années où elle a vécu à Berlin durant la guerre froide. Et ensuite, nous avions aussi Madame Arnaud qui nous a fait une merveilleuse visite du musée de la soie lorsqu'on a accueilli nos correspondants allemands au début du mois de mai. Au niveau des deux thématiques qui nous intéressaient ici, si les auditeurs sont intéressés et voudraient avoir un peu plus approfondir leurs connaissances, on vous conseille chaleureusement un site qui s'appelle Le Grand Méchant Loup. Vous le trouverez sous ce terme-là. C'est un projet de journalisme franco-allemand, berlinois. Il est réalisé par et pour des adolescents. C'est un site internet bilingue à la fois journalistique, pédagogique, interactif et ludique qui a été créé en 2000 et qui est chapeauté par le lycée français à Berlin. Un deuxième article ou une deuxième source qui pourrait être intéressante si vous êtes intéressé par la guerre froide et notamment le mur de Berlin, c'est le journal Le Monde qui a retravaillé un article sorti le 8 novembre 2019. Il a été modifié le 19 janvier 2021. Il contient une vidéo de 14 minutes et ça traite donc de l'histoire du mur de Berlin, de la guerre à sa chute. On vous salue tous, on vous remercie très chaleureusement pour votre écoute. Viele Grüße, bis bald. Dankeschön. Merci à Madame Arnaud. Merci à Madame Gonnet. Merci aux nos journalistes en herbe.
On est polyglottes ou on
merci.
L'est pas.
Merci.
Yann Abertiti.
Le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte.
On y parle de tout et n'importe quoi.
Retrouvez-nous sur www.radioescapade.org.